C'est simple. Si tu veux éviter les épiceries présentement, ben Chef Maison, c'est la solution. Au 438-872-9500, tu peux le rejoindre aussi sur sa page Facebook, Info Chef Maison. Puis oublie pas, le forfait familial, 5 jours à 75$. Chef Maison, la solution. Hey! T'es là, toi? Bienvenue dans la jasette du barbu numéro 172. On est vendredi, c'est la dernière de la semaine. Ta manette. Non. C'est ça, oui, ça commence sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs. Bon, qu'est-ce que j'ai comme sujet pour toi? Hey, je viens de regarder un reportage. Tu vas sûrement te rappeler de ce combattant-là. Il a fait les belles années du UFC, début des années 2000. Spencer The King Fisher. Lui, il avait eu une trilogie à l'époque contre Sam Stout. Je ne sais pas si tu te rappelles des combats exceptionnels. Spencer, ça a toujours été un crowd pleaser. Un gars qui a eu 17 combos au UFC, dont 2 ou 3 Fight of the Night. Un excellent combattant, un gars qui laissait tout dans le ring, corps et âme. Je viens de voir un reportage à son dernier combat en 2009, je crois. Il y avait... reçu un diagnostic comme quoi il y avait des problèmes au cerveau, du sang sur le cerveau, ce qui est très dangereux. En fait, là, je suis pas un docteur, je suis pas un chirurgien, là, je peux pas bien t'en parler, mais ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, il va faire de la démence, puis il n'y a plus de mémoire à court terme, un peu comme le frère de Martin Matt. Donc, il n'est pas très fonctionnel. Des fois, il se rappelle pas de son nom, des fois, il se rappelle pas le nom de ses enfants. La mémoire à long terme, il n'y a pas de problème. Mais la mémoire à court terme, il n'y en a tout simplement plus. Tu le vois qu'il est très, très ralenti par la vie. Là. La maladie a fait son, a fait ses ravages. Lui, il recevait un 5 000 $ par mois du UFC. Ça couvrait ses médicaments, ça couvrait certaines choses pour lui, là. C'est-à-dire 5 000 par mois fois 12, on s'entend que c'est de l'argent, là. Donc, il y en avait de besoin. Mais là, quand le UFC a été vendu, ben les nouveaux propriétaires, eux, ont décidé qu'il n'aidait plus Spencer Fisher. Puis depuis ce temps-là, ben il est dans la grosse merde. Depuis 2017, en fait. Fait que ce reportage-là nous fait prendre conscience de son état. Puis il a décidé d'en parler... dans ce reportage, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'y a plus rien à perdre. Il va éventuellement souffrir de démence, comme Al Capone. Je ne sais pas si tu as vu le film Capone. C'est assez horrible. Souffrir de démence. Il n'y a pas grand-chose de plus souffrant que ça dans la vie. Puis éventuellement, ben, l'Alzheimer va embarquer là-dedans. Spencer Fisher, il est dans début quarantaine. Là. Il est pas vraiment vieux. Là. Mais attends une minute, moi, tu sais, ça, il a quel âge, Spencer Fisher? Spencer Fisher. Ça sera pas long. Ah, ben c'est ça. Il a 45 ans. Là. Il est plus jeune que moi. Donc, Spencer... L'avenir est pas rose. Le reportage est assez frappant. Tu peux aller sur YouTube, tape The King Spencer Fisher. C'est un petit reportage d'à peu près une dizaine de minutes. Mais ça dit ce que ça a à dire. C'est quand même marquant. Puis là, ça m'amenait à la réflexion. Tu sais, moi qui est un fan de MMA, évidemment, c'est pas un sport. Ben, c'est comme la boxe, c'est comme le kickboxing. C'est un sport avec certains risques. Mais quand je te dis ça, j'ai la réflexion de me dire, ben, comme le hockey apporte des risques, comme la Formule 1 apporte certains risques. Oh oui, c'est un sport avec des risques nécessairement. La chose que je vois là-dedans, ça prend pour les combattants qui se battent au UFC ou peu importe l'organisation, Bellator, ONE, LFA, Cage Warrior, TKO. Samurai MMA. Ça prend des assurances. Je sais que c'est pas... pas évident, mais une organisation comme le UFC devrait... Je ne sais pas s'ils le font, mais ils devraient fournir des assurances à ce niveau-là pour les combattants. Du moins, les combattants américains là, qui ont... Un gars comme Spencer Fisher qui a fait des belles années au UFC, qui a fait gagner... qui a gagné des sous, mais qui en a fait gagner encore plus au UFC. C'est quand même triste de voir cette situation-là. Puis je peux pas dire que je suis... Je suis fier de voir ça, tu sais. Mais en même temps, le risque était là. Puis à l'époque, Spencer Fisher savait déjà tous les risques qu'il prenait. C'est un combattant qui se bat debout. Comme je dis, il allait corps et âme. Lui, c'était coup pour coup. Donc, c'est sûr que quand tu te bats comme lui se battait, les risques sont plus élevés. Évidemment que présentement pour lui c'est triste. On souhaite pas ça à personne. Mais c'est sûr que lui était plus. C'est sûr que pour lui c'était plus. C'était possible que ça arrive dans le sens que si moi je travaille dans les bureaux, ça m'arrivera pas de faire une commotion cérébrale là, puis de faire de la démence, puis. Parce que j'ai manqué de trop de coups. Mais là, quand tu fais du MMA, c'est sûr que le risque est fois 1000. Tu sais, si on parle d'un... Ou on parle d'un niveau de pourcentage, le pourcentage est élevé, là, du risque de blessure. Mais les gars, quand ils se présentent là, c'est en âme et conscience qu'ils le font. Beaucoup aiment pratiquer ce sport-là. Certains le font pour l'argent, certains le font pour la passion, peu importe. On a toute une raison. Mais je pense qu'il est temps d'une union, peut-être pas d'un syndicat, peut-être un syndicat des combattants, une fédération, peut-être qu'il est temps que les combattants se réunissent de MMA, se tiennent, puis ils se partent quelque chose dans ce sens-là, là, tu sais. Quand tu, à chaque fois que tu te bats, ben Bellator doit mettre certains montants dans la cagnotte, pareil comme le UFC puis les autres organisations. Évidemment, puis ça vaut au nombre de combats que tu as fait. Après, t'as ta pension au nombre de combats que tu as fait dans le UFC ou au nombre de combats. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Excusez. Désolé. Donc, c'est ça, ça m'a pas mal marqué. Je viens de regarder ça, ce documentaire-là. C'est pour ça que je voulais t'en parler, là. Fait que va voir ça. Bon petit reportage sur The King Spencer Fisher, qui a beaucoup changé en passant, là. Il est méconnaissable. Ouais, triste histoire. En parlant de triste histoire, tu sais, il y a peut-être un mois de ça, Anderson Silva s'était battu contre Julio César Savage Chavez Junior à la boxe. Anderson Silva avait gagné. Ben content pour lui, mais tant qu'à moi, Anderson devrait prendre sa retraite rendu au ski avec l'argent qu'il a fait. Devrait rester tranquille. Et là, je viens de voir qu'il y a un combat d'organiser le 11 septembre pour l'organisation Trailer Fight Club entre Anderson Silva, un combat de boxe entre Anderson Silva et Tito Ortiz. Ce qui est drôle là-dedans, tous les amateurs de, de MMA savent que Tito Ortiz n'a jamais été bon debout. C'est un lutteur qui amenait ses adversaires au sol, faisait du ground and pound. Aucune technique debout, Tito Ortiz. Là, il décide d'aller se battre. Puis il est vieux, là, Tito. Là. Il a presque 50 ans. Puis Tito, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Là, il va se battre contre Anderson Silva. La seule chose que je vois là-dedans pour les deux, c'est la pas du gain. C'est juste ça. Il y a... Ça n'a rien à voir avec la passion. Puis ce sport-là, faut que ça soit ça. Sinon, c'est triste à mourir. Moi, des combats de même, je trouve ça... C'est un freak show. Il y a... Puis comme je disais au préalable, il y a toujours eu des freak shows dans le sport, que ce soit en boxe ou en MMA. Beaucoup au Japon, à l'époque du Pride. Mais je trouve ça bien, bien triste de voir un vétéran comme Tito Ortiz... As-tu besoin de tant que ça d'argent? Bon, évidemment que le favori de ce combat-là est Anderson Silva. Silva a une excellente boxe. Il a toujours eu une excellente boxe. Anderson l'a prouvé dans son combat contre le Mexicain Chavez Junior. Je fais juste pas comprendre. Ben, en fait, je dis je comprends pas. Oui, je comprends, là. L'idée en arrière de ça, c'est de faire une passe de cash. Là, c'est pécunier, puis c'est juste ça. Puis je pense que ça me dérange, ça. Non, que les gars veulent faire de l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est tellement un beau sport, que ce soit la boxe ou le MMA. C'est tellement des beaux sports de combat. Je trouve que c'est ridiculiser le sport. C'est... déjà que les gens ont des préjugés face au MMA puis à la boxe, tu rajoutes une couche, là. Déjà que ça n'a pas toujours été des sports propres. Des fois, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà, à la base, les gens ont une idée préconçue de ces sports-là. Ça, en plus, tu te mets à faire des freak shows, comme Jake Paul, Logan Paul, des YouTubers, des gars qui font des TikTokers, puis etc., là. Je trouve ça bien triste. Je trouve, surtout... Qu'il fasse une passe de cash, tu sais, à y repenser, je m'en fous, m'en calisse. Puis c'est bien correct. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça nuit au sport. C'est ça, c'est l'image qu'on donne du sport. Moi, t'as le dit, tu sais, le MMA, c'est probablement mon sport préféré. Puis, je trouve ça bien triste quand je vois ça, des anciens combattants du MMA aller vers la boxe puis faire des freak shows. Je trouve ça bien triste. Bon, je t'ai parlé de Tito Ortiz, Anderson Silva, je t'ai parlé de... Haha! Tiens, on va aller voir ça. OK. Un sujet que j'aime bien parler, mais je veux revenir sur le sujet. J'écoute... ça m'arrive d'écouter la radio FM quand j'ai plus de podcast à écouter. Ce qui est rare. Des fois, je vais écouter le 91.9 Sport, moins l'été. Ben, moi, t'avouer, ben humblement, moi, pendant les Olympiques, j'ai pas écouté le 91.9 Sport. J'ai rien contre les Olympiques. C'est juste que j'ai pas d'intérêt pour ça. Puis après ça, les remplaçants à la radio, j'ai toujours eu de la misère avec ça aussi. On se crée des habitudes, puis moi, j'étais un gars d'habitude. J'étais un être d'habitude. Je pense qu'on est des animaux d'habitude. On aime ça être dans nos pantoufles. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les remplaçants à la radio. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Puis là, j'écoutais... Je me souviens plus si c'est... J'avais tourné ça à... J'avais changé de poche. Je pense que j'étais à C'est quoi ou Énergie, mais... Je me disais, tu sais, musicalement, là, à cette heure qu'on a Spotify sur le bout des doigts, là, on écoute la musique qu'on veut, quand on veut. le 60% de musique francophone, là, aujourd'hui, là, on entend souvent la disque pleurer. Le 60% d'obligation de musique francophone nuit tellement à la musique québécoise. C'est incroyable. Puis c'est un no-brainer, là. Faut s'arrêter pour y passer, tu sais. On veut un 60%, mais les radios vont te packager ça, là. Ils vont te mettre ça après 8 heures le soir quand personne n'écoute la radio, là. Ils vont t'en mettre du francophone, là. Ils vont remplir ça toute la nuit, là. Puis tu vas arriver à ton 60%, tu sais. Puis le format aussi radiophonique est rendu complètement ridicule, là. Une chanson, faut pas qu'elle dépasse 2 minutes 27. Tu sais, il y a des standards, eux autres, là, qui... Sinon, tu passeras pas à radio, là. C'est drôle, hein? La radio, c'est dirigé par des hommes d'affaires. La radio, c'est une business. Et c'est pour ça que le podcast prend beaucoup de place. Le jour que les hommes d'affaires vont... Ben là, ils commencent. Là. Le jour que les hommes d'affaires se rendent compte que c'est payant un podcast, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, le jour qu'ils vont embarquer là-dedans, c'est le jour que le podcast va mourir aussi. Pour l'instant, on est correct. Il y a eu un coup de pelle déjà avec Spotify qui a acheté Joe Rogan. Déjà, c'est plus le même show, là. Si vous êtes fan de Joe Rogan comme moi, vous l'écoutez moins qu'avant, t'sais. Ceci étant dit, c'est pénible la musique francophone qui passe à la radio conventionnelle. En tout cas, je parle pour Montréal, je parle pas pour Québec, qui produit encore une excellente radio. À Montréal, c'est pénible. Puis à Montréal, on n'est pas capable d'avoir des vrais animateurs radio de formation. Non. À Montréal, ce qu'on veut, c'est des vedettes. On veut des humoristes, on veut des comédiens connus, on veut des faces connues. Mais tes animateurs radio, si tu n'aimais pas de l'avant, ils seront jamais connus. Puis, je pense pas que tu rends service en m'attendant du monde qui devrait pas être là. Moi, je ferais pas du name dropping, là. C'est pas ça, là. Puis c'est pas aussi pour me penser mieux que les autres. C'est pas ça, pantoute. Je fais juste te donner mon opinion de gars de radio qui aime la radio. J'ai toujours préféré... Je te l'ai déjà dit, ça. Toujours préféré la radio. J'aime ce médium-là. J'adore ce média-là. Puis je considère encore que ce qui se fait de meilleur comme radio, encore aujourd'hui, c'est ça se passe à Québec. Ici, c'est à Montréal, c'est triste, puis ça fait longtemps, là, c'est 20 ans. Au-delà de 25 ans que c'est comme ça, là, à Montréal. La dernière bonne radio qui s'est faite à Montréal, ben, était sur l'AM. Mais l'AM est mort aussi, tu sais. Mais la musique au Québec, ça fait longtemps qu'elle est dans le trouble, puis qu'elle est en crise. Mais clairement, on comprend pourquoi. Ce qui se passe à radio de musique francophone, c'est à peu près toujours les mêmes 30 tunes, à peu près toujours les 30 mêmes artistes qui font à peu près toute la même affaire. Il n'y a pas de variété. On ne laisse pas place aux groupes indépendants, aux chanteurs indépendants, chanteuses. On ne laisse pas place à la nouveauté. Il faut que tu rentres dans le standard 2 minutes 27. Puis c'est comme ça que ça se passe. Fait qu'évidemment, on laisse la place aux... Je suis pas le seul à avoir dit ça, là, aux Star Academy de ce monde, à La Voix. Pas de problème avec ça, mais pas de problème de laisser de la place à des gens qui ont gagné des concours. C'est bien correct, là. On essaie de faire notre place comme on peut dans la vie, tu sais. Je respecte ça. C'est juste qu'à un moment donné, on peut-tu mettre d'autres choses? C'est-tu possible? Parce que ça devient... Puis après, on nous demande... la disque broille qu'on fait pas place à la musique francophone. Chris, moi, la musique francophone que j'aime, c'est souvent de la musique indépendante que j'entends jamais à radio. Là. Jamais, jamais, jamais. Zip, nada. Puis pourquoi? Parce que ça rentre pas dans les standards. Je veux dire, Plume la Traverse a fait une carrière, ce qui n'était pas dans les standards. Puis s'il y a quelqu'un qui a fait de la bonne musique, c'est bien Plume la Traverse. Tu sais, moi, mettons, là, je tourne ça à C'est quoi? Je vais prendre les autres comme exemple. Je Je suis tanné d'entendre les deux mêmes tunes de Bon Jovi. Living Like a Prayer. Ou Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. Hey, c'est des tunes que j'aime, là. Mais on les a-tu usés à c'est quoi, tu penses? Tu penses-tu qu'on a fait le tour, là? Tabarnak! À un moment donné, là. J'entends tellement souvent la disque pleurer puis la socant. Mais vous vous aidez pas. Puis vous aidez personne. T'sais. Laissez les radios mettre la musique qu'ils veulent. Au lieu d'exiger des standards de franco, de pourcentage, exigez donc de la nouveauté. On dirait que la radio maintenant, c'est. Ben, ça a toujours été ça, là, mais là, c'est encore plus évident. Là. Tout ce qui se passe en ondes, la musique, tout ça, là, les animateurs, tout ça, c'est du bruit entre des annonces. Et les annonceurs mènent le bal. Mais ben, c'est sûr, c'est eux autres qui payent. Mais en même temps, la radio, c'est-tu devenu juste un homme sandwich? Tu comprends ce que je veux dire? C'est devenu une pancarte à publicité. Parce qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Faut que tu donnes de la qualité à un moment donné aussi. Là, si t'es juste en train de faire des annonces back-à-back, mur à mur, je pense pas que tu t'aides. Là. Je pense pas que ça aide personne. Bref, ça fait longtemps que la radio à Montréal est malade et est morte agonisante. C'est mon point de vue. C'est triste. Puis c'est triste aussi pour le milieu musical. Je regarde, il se fait du bon rap québécois qu'on entend nulle part. Il se fait de la bonne musique alternative qu'on entend nulle part. Du bon rock québécois, il s'en fait. Mais on les entend nulle part. Oh, tu vas... Faut que tu fouilles dans Spotify, ben à part. Il y a des émissions spécialisées, là. Tu vas pouvoir entendre ce genre de musique-là. Mais bon, il va falloir que tu fouilles. Puis tu n'entendras pas ça dans les radios standards. Ce qui est triste quand même. Puis je pense qu'il y aurait place à une radio FM pour ce genre de musique-là. Je le crois sincèrement. Est-ce que le monde veut l'entendre toujours les mêmes 8 tunes? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ouais, c'est ça. Pas mal fait le tour de la radio. T'écoutes les animateurs, c'est comme... T'as-tu besoin de toujours rire entre deux mots? Puis la peur du silence. Ils ont tellement peur du silence à la radio, là, c'est... ça en est ridicule. Dernière chose avant de te quitter pour la fin de semaine. Bon, ça je parlerai pas de ça d'abord. Non, ok, ça j'enlève ça. Je suis en train de faire une série de textes pour fanadien.com sur les nouveaux venus du Canadien que j'ai intitulé la série Connais-tu ton? Là j'ai fait Connais-tu ton Mike Hoffman et j'ai fait disponible maintenant Connais-tu ton David Savard? Il va me rester Mathieu Perrault et Cédric Pocket. Bien content des acquisitions du Canadien. Je vais te dire, là, avec recul, bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve à propos de Jack Eichel et tout ça, mais pour l'instant, je regarde le club du Canadien. Moi, là, je suis satisfait. Je suis heureux et je suis content de ce qu'on a. Bien content de l'acquisition de Mike Hoffman, même si je pense que c'est un peu tricky. Pour moi, la grosse acquisition, c'est David Savard. Tu vas l'aimer, c'est sûr. Cédric Paquette va amener du grit. C'est un genre de Steve Bégin 2.0. Puis Mathieu Perrault, toujours bon. C'est une quatrième ligne. Puis sur le désavantage numérique. Donc, on était chercher de la profondeur. Puis je pense qu'on va pouvoir laisser une belle chance au centre à Ryan Poehling. Pourquoi pas laisser une chance à Poehling? Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, non, moi, je suis quand même... très satisfait de l'été de Marc Bergevin. Je peux difficilement le critiquer. La saison va être difficile, comme toutes les saisons d'ailleurs. Là, on va être à 32 équipes. On va retourner dans notre bonne vieille division. J'ai bien hâte de voir. Les Maple Leafs ne se sont pas améliorés tellement. J'ai regardé les autres équipes, là, ceux qui se sont améliorés, ceux qui ne le sont pas améliorés. Les Devils du New Jersey se sont améliorés avec Dougie Hamilton et Thomas Tatar. Belle acquisition pour eux, Thomas Tatar. Ici, ça faisait plus. Mais là-bas, je pense qu'il peut faire un bout de chemin sur une deuxième ligne, probablement. Mais bref, tout ça pour dire que je suis bien content des acquisitions. Mike Hoffman va nous aider offensivement. David Savard va remplacer, écoute bien ça, peut-être qu'il va faire le saut, là. David Savard va remplacer Shea Weber. Pas de problème. Pour moi, pas de problème. David Savard remplace Shea Weber les deux yeux fermés. Par la suite, c'est Derek Pocket. Probablement qu'il ne jouera pas tous les matchs. Mais quand il va avoir des blessés, il va pouvoir rentrer. Puis quand il va avoir des matchs où on a besoin d'un peu plus de grit, lui, il va être là. C'est tout un grinder. Je l'aime beaucoup, Cédric Pocket. Puis ça fait tellement de sens qu'il soit avec nous. Lui, il va manger des bandes pour le vrai. Puis Mathieu Perrault, il va nous aider dans notre désavantage numérique. Et David Savard va nous aider sur le deuxième avantage numérique. Hoffman à pointe au premier avantage numérique. Je le vois déjà avec Caulfield. Ça va être mortel, ça. Ouais, ça va aider grandement notre avantage numérique. Puis ce qui va nous aider aussi, c'est le retour de Jonathan Drouin. Oublions pas Jonathan Drouin. Est-ce qu'on va l'échanger avant le début de la saison? Peut-être. Moi, j'ai pas encore perdu confiance en lui. C'est sûr que c'est pas évident, la situation. Mais je pense que c'est possible qu'il sorte de ça et qu'il nous sorte un esti de saison. Là. Faut pas y mettre de la pression, parce que c'est pas un gars à pression. Mais je pense que Jonathan Drouin peut nous aider. Ben sur ce, moi, tu souhaites une belle fin de semaine. C'était la Josette du Barbu numéro 172. Faut que je regarde mon téléphone pour savoir je suis rendu où. M'a dit comme je disais dans le temps que je faisais du CB à la chute et que mon surnom était Red Lobster. Tu connais la ritournelle. Popote. Ciao.
Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne alexlebarbier.ca ou tu peux appeler directement au 450-602-7022.